voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et nous allons parler ce soir de la situation politique au Sénégal avec les derniers développements. Il s'agit de la libération de l'opposant Ousmane Sonko et du discours du président Macky Sall qui a appelé à la retenue. Mais pour l'instant, je vous propose de parler de l'affaire Bosco Ntaganda avec notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Professeur José-Marie Tasoki-Manzele, bonjour.
Bonjour, madame.
Enseignant, chercheur et professeur en droit pénal à l'université de Kinshasa, UNIKIN, en RDC, la Cour pénale internationale a fixé à 30 millions de dollars américains le montant des réparations aux victimes de l'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda, surnommé Terminator. Et il revient essentiellement au fonds de la CPI, au profit des victimes, de financer cette enveloppe en raison de l'incapacité de M. Ntaganda à le faire. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la capacité de la CPI de réunir à temps ces fonds pour indemniser les victimes?
Bien, je ne sais pas s'il faut parler dans le sens de l'optimisme ou pas. Mais il faut plutôt regarder la question par rapport à la pratique, à ce qui s'est passé bien avant les dossiers ou l'affaire Bosco Ntaganda. La Cour pénale a déjà eu à condamner certains accusés à des dommages intérêts, des lourdes sommes d'argent, mais qui ne sont toujours pas exécutées. Tout simplement parce que la personne accusée se présente le plus souvent comme un indigent. Alors, la Cour, d'ailleurs, elle-même l'avait compris, même les statuts de Rome l'avaient compris. C'est pourquoi vous allez trouver dans l'article 79 du statut de Rome la situation qui se rapporte au fonds d'indemnisation. Et c'est difficile parce que la CPI elle-même doit recourir à certains États contributeurs qui doivent alimenter le fonds d'indemnisation. C'est pourquoi j'ai dit tout au départ qu'il y a eu d'autres cas de ce genre où on n'est toujours pas arrivé à indemniser les victimes, même de manière collective. Ce qui fait que ces 30 millions, c'est bien de les dire dans la décision de la Cour pénale, mais il faudrait encore trouver des contributeurs.
Il faut donc miser sur la volonté, la générosité des bailleurs. Mais pourquoi fixer des montants aussi importants alors que l'argent n'est pas disponible et alors que dans le passé, les bailleurs ne suivent pas toujours?
Vous savez que les crimes pour lesquels Bosco Ntaganda a été poursuivi sont des infractions très graves, avec beaucoup d'impact dans la société, surtout Ituri, mais aussi les personnes physiques qui ont été victimes de ces actes-là, ces atrocités. Ce qui fait que la Cour, quand elle fixe 30 millions, ce n'est pas pour rien. On peut imaginer une indemnisation symbolique d'un dollar, par exemple, ou de 30 000 dollars, par exemple. Mais est-ce que la réparation aura rencontrer la gravité des faits tels que les victimes l'ont subi? C'est là tout le problème. Il est possible de ne pas rêver trop, de penser que dans deux jours, trois jours ou trois mois, la Cour pénale va rassembler les 30 millions. Il faudrait prendre du temps, il faudrait prendre la patience pour que la Cour pénale puisse rassembler les 30 millions.
Justement, le problème, c'est que le temps qu'il faudra à la CPI pour rassembler ces 30 millions de dollars, il y a beaucoup de victimes qui décèdent. Mmh. C'est le cas, par exemple, des victimes de l'affaire Issenabré, qui, cinq ans après, ne sont toujours pas indemnisées.
Mais c'est là tout le paradoxe avec la justice pénale internationale, avec les crimes qui sont commis et qui portent atteinte à l'humanité entière, au fait. Alors, quand on commence à penser à l'indemnisation, moi, je pense qu'il faut plutôt voir la situation beaucoup plus dans le sens de l'indemnisation collective, des victimes collectives, pas des victimes individuelles. Penser que X victime peut avoir, par exemple, 5 000 dollars ou 10 000 dollars. Il faut plutôt penser à des sanctions symboliques. Par exemple, la réparation l'érection de certains monuments, par exemple dans une ville qui a été victime de faits graves, au titre de symbole, pour dire que désormais, la personne qui a commis ces atrocités sera condamnée, mais au moins, lorsque l'on voit les symboles là, l'érection d'un monument à la mémoire des victimes, au moins, sur le plan psychologique, les victimes ont été indemnisées.
Il faut plutôt penser à des réparations morales plutôt que financières qui montrent leurs limites.
Oui, la réparation financière montre ses limites. Il faut plutôt penser à la réparation psychologique. Finalement, ce que ces victimes-là attendent, c'est quoi ? C'est apprendre que l'auteur de l'infraction ou l'auteur de ces crimes contre l'humanité n'est pas resté impuni. Au moins, on l'a sanctionné, on l'a jugé, on l'a sanctionné. Mais maintenant, puisque la justice doit instaurer la paix, à partir de la décision de la Cour pénale, dans cette contrée-là, comme le cas de l'Ituri en l'occurrence, il y aura la paix et toutes les velléités des reprises des atrocités vont se taire.
Professeur José-Marie Tasoki Manzele, merci beaucoup.
Je vous remercie, madame.
Enseignant, chercheur et professeur en droit pénal à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Au Sénégal, calme avant la tempête ou fin des violences liées à l'affaire Ousmane Sonko. Nous en débattons ce soir avec quatre invités qui sont tous à Dakar. Amadou Ba, juriste, membre du mouvement des cadres de PASTEF, c'est le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Monsieur Ba, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci également au docteur Adi Ba, maître de conférence, enseignant-chercheur en philosophie analytique à l'université Cheikh Anta Diop de la capitale sénégalaise, Dakar. Monsieur Ba, vous êtes là ?
Oui, je suis là. Merci de l'invitation. Bonsoir.
Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons également le ministre conseiller du président de la République, Macky Sall, monsieur Zator Mbaye. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci. Bonsoir. Pardon, monsieur le ministre, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je voudrais vous saluer et saluer bien sûr les co-débatteurs et tous les auditeurs.
Merci en tout cas à vous d'être là. Simon Kouka, membre fondateur du mouvement de la société civile Il y en a marre. Monsieur Kouka, bonsoir. Allô, monsieur Kouka, qui ne nous entend pas pour l'instant. Je voulais pourtant commencer par lui, hein, pour ne pas donner tout de suite la parole aux politiciens, pour savoir quelle appréciation il fait du discours du président Macky Sall et des annonces qui ont été faites par ce dernier. Je commence avec vous, docteur Adi Ba, maître de conférence. Comment avez-vous apprécié cette sortie du président Macky Sall, qui était du reste très attendue ?
J'avoue que j'ai été un peu déçu parce que moi, l'une des choses que j'attendais, c'était qu'il annonce une commission d'enquête indépendante pour qu'on comprenne la structure des événements qui ont mené à toutes ces émeutes-là. Parce que au début de cette histoire-là, il y a quand même une accusation de viol, ce qui est très grave. On a vu des nervis qui accompagnait la police, ce qui est anti-républicain et très grave également. Et il y a le discours du 31 décembre du chef de l'État, où il dit que la justice sénégalaise n'est pas indépendante et dépend de lui. Donc ça veut dire que les gens ont raison de ne pas avoir confiance en la justice. Et je croyais que pour sortir de cette crise-là, il mettrait en place une commission pour qu'on ait une enquête indépendante sur tous ces événements-là, pour savoir s'il y a eu viol ou complot, pour savoir qui sont les nervis qu'on a vus se battre aux côtés de la police, donc pour refonder.
Qu'est-ce que vous appelez nervis ? C'est ce que d'autres ont appelé des milices, des miliciens ?
Oui, on peut appeler ça milicien, on peut appeler ça nervis. Le ministre de la Justice les a appelés lutteurs. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on a vu des gens qui étaient armés de bâtons les premiers jours, de bâtons et de machettes les premiers jours, et qui étaient armés de fusils les derniers jours, et qui semblait ne pas être inquiété par la police et qui semblait ne pas faire partie de la police. On a vu ces gens-là sortir du siège du parti du président de la République.
L'APR.
Donc ça, c'est extrêmement grave. Oui, ça, c'est extrêmement grave. Il faut que la lumière soit faite sur ça.
D'accord. Donc, vous dites globalement, vous avez été dessus, mais le président a quand même annoncé l'allègement du couvre-feu. Il a également déclaré que la procédure judiciaire contre Ousmane Sonko doit se poursuivre de façon indépendante.
C'est une excellente chose. La justice est censée être indépendante. Maintenant, le problème, c'est que le 31 décembre, le chef de l'État, lors d'une interview avec la presse, a dit que la justice sénégalaise, sur les dossiers sensibles, lui obéissait. Et de manière scandaleuse, la magistrature sénégalaise n'a pas réagi. Donc, on a des doutes sur la justice sénégalaise et on a le droit d'avoir des doutes.
D'accord. Je propose que le représentant du parti au pouvoir, hein, le ministre conseiller Zator Mbaye, réponde peut-être déjà à ces premières accusations sur la justice sénégalaise qui ne serait pas indépendante, les affirmations faites par le président Macky Sall lui-même et puis la présence aussi de ce que le ministre de la Justice appelait des lutteurs aux côtés de manifestants.
Alors, je voudrais d'abord vous remercier, n'est-ce pas, de cette initiative que vous avez prise en nous permettant un peu d'éclairer la lanterne de nos concitoyens d'ici et de la diaspora, bien sûr, mais au-delà de tout le monde entier, parce que le Sénégal a quand même traversé quelques jours de heures qui sont quand même très... C'est assez normal dans une démocratie. Cela montre encore la vitalité de la démocratie. Il est normal que souvent, quand les gens ne sont pas d'accord, qu'ils puissent l'exprimer librement. Et vous conviendrez avec moi que le Sénégal reste jusqu'à présent une exception démocratique. En Afrique, je devrais dire particulièrement en Afrique de l'Ouest, nous faisons partie des rares pays qui n'ont pas encore vécu un régime militaire. Et cela est tout à l'honneur des politiques. Depuis le premier président qui s'appelle Léopold Sédar Senghor jusqu'à aujourd'hui, le président Macky Sall qui s'efforce quotidiennement, journellement, à améliorer nos acquis démocratiques. En démocratie, rien n'est statique, tout est dynamique. Je voudrais rappeler que dans le cadre du rétablissement de l'ordre public, il y a des forces qui portent des tenues et il y a des forces qui n'en portent pas pour pouvoir justement faciliter l'infiltration de la police ou de la gendarmerie.
Et qui sont armés de bâtons et de machettes, comme l'affirme le docteur Adiba.
Je n'ai jamais vu de machette entre les mains de ces personnes. Parce que moi aussi, je suis sénégalais, j'ai vu. Il arrive peut-être que les gens portent des bâtons pour pouvoir bien intégrer la masse et saisir justement les personnes qui seraient appréhendables. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que c'est des nervis. Je considère que dans le rétablissement de l'ordre public, il y a des hommes en tenue et il y a des hommes qui sont en civil, c'est-à-dire en tenue banalisée. Maintenant, revenant sur ce qu'il dit sur l'autonomie de la justice.
Juste un point précis, M. Mbaye. M. Mbaye, quel était le rôle de ces nervis dont vous admettez clairement la présence aux côtés des forces de l'ordre?
Alors, je ne suis pas en train d'admettre la présence de nervis. Je vous ai simplement dit qu'il y avait des personnes.
Bon, on va dire des supplétifs.
À côté de la police et de la gendarmerie, ces personnes, jusqu'à plus ample informées, pour moi, étaient dans le service de l'État central, c'est-à-dire à côté de la gendarmerie et de la police. Et souvent, il arrive qu'au Sénégal, qu'on voit beaucoup de policiers qui sont en civil, qui ne portent jamais de tenue. C'est comme les gendarmeries. C'est comme la gendarmerie également.
Pour être clair pour tout le monde, c'était des policiers en civil, c'était des supplétifs. Qui étaient ces personnes?
Mais c'était des... Je vous ai indiqué, madame, que moi, en tant que membre du cabinet du président de la République, je n'ai jamais vu de nervis, n'est-ce pas, dans le rétablissement de l'ordre public. Cependant, je vous ai indiqué que pour mettre la main sur des personnes qui seraient mal intentionnées, la police comme la gendarmerie, souvent fois, utilise parmi ses membres des agents qui s'habillent en tenue civile pour pouvoir mettre la main sur les malfrats. Et moi, c'est cela que j'ai vu. Donc, personne ne pourra vous prouver que c'est des nervis, c'est des gens qui ne sont ni des policiers, ni des gendarmes. Maintenant, ils sont dans la supputation, ils sont dans leur bon rôle de dire que, écoutez, l'État a recruté des nervis. En tout cas, moi qui suis de la majorité présidentielle, on n'a jamais décrété un mot d'ordre pour le recrutement de nervis dans le rétablissement de l'ordre public. Merci. Maintenant, sur le sujet de la justice, qu'il semble dire, vous savez, le président de la République a été très clair. Il arrive que des personnalités soient émaillées à partir avec la justice, et ça, c'est dans le domaine public. Rappelons que dans ce cas précis, c'est un domaine privé. Il s'agit d'une fille qui a porté plainte contre un homme pour des délits de viol, de violence, et nous avons parlé de menaces de mort et de pédophilie. Le président n'a absolument rien à voir dans ce cas parce qu'il s'agit de deux citoyens sénégalais qui sont d'égale dignité et qui représentent la même chose au vu de la justice. Où est le rôle que doit jouer le président de la République dans cette affaire?
Merci, monsieur.
Par contre, il arrive que sur des dossiers justement où des personnalités ont maille à partir avec la justice, il est arrivé dans le passé que M. Karim Wade, qui était ministre, était en prison et que sa sœur, qui était fils du président Abdoulaye Wade, devrait également se le retrouver en prison. Et vous savez que c'était quand même très délicat et le président souvent fait preuve de magnanimité, comme il arrive souvent qu'il use de ses prérogatives régaliennes pour gracier des personnes qui ont...
Merci, M. Mbaye. On va écouter Simon Kouka. Rassurez-vous, M. Ba Amadou du PASTEF, vous aurez la parole dans un instant. On va écouter Simon Kouka qui nous a rejoint. Non, on me fait signe. Je le voyais pourtant à l'écran qu'on l'a à nouveau perdu. Alors, Amadou Ba du PASTEF, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette sortie du président de la République, ou peut-être vous voulez vous exprimer sur... plutôt sur les nervis que, selon Dr Ba, mis des renforts de la police, d'après M. Mbaye.
Oui, je voudrais d'abord parler de ces soi-disant nervis qui n'en sont pas. Il faut rappeler que c'est le candidat Macky Sall lui-même qui a créé ce qu'on appelle les marrons de feu, qui les a dénommés ainsi, c'est-à-dire une milice. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier, qui accompagnent, qui ont été recrutés, qui sont sortis de l'APR dans des voitures de l'administration pour jouer les supplétifs de la police, en brutalisant, en martyrisant les manifestants. C'est des vidéos qu'on peut... irréfutables. Maintenant, s'agissant de son discours, on est tous extrêmement déçus, eu égard aux attentes et à la gravité de l'heure. On s'attendait au moins à trois choses. D'abord, parler de la situation. Vu qu'il y a une dizaine de morts et des centaines de blessés, tout de suite, on vient d'en évacuer encore de Ziguinchor ici à Dakar. On cherchait une ambulance depuis ce matin et j'ai eu à coordonner les évacuations. Donc, pour chercher, évacuer des blessés, au moins qu'il diligente, qu'il parle d'abord des blessés, qu'il parle des morts, qu'il annonce une enquête. Le procureur n'a pas encore ouvert d'enquête après 10 morts par balle.
Mais les sources officielles parlent de 5 morts, M. Ba.
Mais depuis quand vous dites 5 morts? Vous pouvez les appeler officiellement. Je vous dis, on a plus d'une dizaine de morts. Il y a un enfant qui est décédé cette nuit. C'est des vidéos, c'est des trucs. Nous, on est quand même en contact avec les familles et les blessés. On vient d'en enterrer tout à l'heure, même s'il n'y avait que 5 morts. Que vous êtes d'accord depuis quelques jours que le procureur de la République n'ait pas encore ouvert une enquête à ce jour, que la police n'a pas ouvert d'enquête, la gendarmerie n'a pas ouvert d'enquête. Donc on l'attendait d'abord sur ça. On l'attendait ensuite sur des mesures fortes institutionnelles. Prévoyez, parce que si tout ça, c'est parti d'une frustration, d'abord politique. Il a comprimé les droits, il a étouffé les libertés. On l'attendait sur une réforme de la justice, qu'il annonce lui-même qu'il ne fera pas de troisième mandat, ce qui a cristallisé les colères. Et on l'attendait aussi sur le plan économique. Les jeunes qui sont sortis, ces jeunes n'en peuvent plus de sa gouvernance et ils lui ont exprimé.
Merci. Monsieur, rassurez-vous, on vous donne la parole pour poursuivre ce que vous disiez sur votre déception. Vous n'avez pas utilisé le mot, mais c'est ce que vous semblez dire après le discours du président Macky Sall.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Calme relatif au Sénégal ce mardi, au lendemain du discours du président Macky Sall qui a appelé ses compatriotes à l'apaisement. Et nous en débattons ce soir avec nos invités, Dr Adi Ba, maître de conférence, enseignant, chercheur en philosophie analytique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Zator Mbaye, ministre conseiller du président de la République Macky Sall, et Amadou Ba, juriste, membre du mouvement des cadres de PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko. Monsieur Ba, alors vous avez dit que vous êtes déçu par le discours du président de la République parce qu'il n'a pas évoqué l'enquête sur les morts, il n'a pas parlé de réforme de la justice, ni clarifié sa position sur ce débat vif concernant son troisième mandat ou non. Et vous disiez que vous êtes également déçu qu'il n'ait pas évoqué la situation économique concernant notamment les jeunes qui sont fortement frappés par le chômage.
Oui, ça c'est peut-être la plus grande déception parce que le président de la République aurait dû voir depuis quelque temps quand même, sur, notamment aggravé par la Covid, les mesures de restriction qu'il a prises au Sénégal par rapport au couvre-feu. Donc il n'a pas, pour cette deuxième vague, dégagé un budget pour essayer de prendre en charge quand même les pertes d'emploi et les pertes de revenus induites par normalement les restrictions au niveau de Dakar et qui est quand même le poumon économique du Sénégal. Donc, nous attendions à ce qu'il nous fasse un plan Marshall ou bien qu'il l'annonce, une remobilisation des ressources vers l'emploi, vers la formation des jeunes.
Mais est-ce que ce n'est pas juste une première étape, sachant que l'urgence était de déminer la crise, de calmer les esprits? Peut-être qu'il reviendra un peu plus amplement, ultérieurement, sur des mesures plus fortes pour répondre à ce dont vous parlez.
Non, mais déjà qu'il ait parlé après dix morts, alors que la situation allait vers un pourrissement réel, tous les jours on nous dit qu'il y a eu deux morts, des manifestations sur tout le plan national, sur tout le territoire national. C'était pas juste des manifestations spontanées à Dakar ou dans les grandes villes, c'était partout au Sénégal.
D'accord, donc, mais il y a eu ces manifestations. Au lendemain de ces manifestations, l'organisation qui avait appelé à manifester finalement a demandé, a suspendu ces manifestations. On peut dire qu'il a réussi quand même à faire comprendre aux Sénégalais qu'il fallait qu'on retourne d'abord le calme, qu'on marque une pause.
Il n'y a absolument pas de report. Il y a une suspension pour aujourd'hui. Là, actuellement, le mouvement qui a appelé à la suspension est en train de se réunir et va annoncer la poursuite des manifestations. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 personnes, plus de 30 personnes même qui sont arrêtées sur des inculpations farfelues d'insurrection, comme si on voulait renverser le gouvernement. Il y a plus de 30 personnes qui sont actuellement arrêtées. Donc, pour une décrispation, il est obligatoire, nécessaire, c'est une exigence qu'il libère d'abord les otages politiques.
Merci, merci. Voilà. Avant de vous redonner la parole, Dr Ba, je souhaite que M. Mbaye réagisse très rapidement à ces aspects liés à l'enquête que le PASTEF espérait voir le président annoncer sur les morts, Monsieur Mbaye.
Mais vous savez, un discours a des principes de base. Le principe, il y a des principes. Le discours même, le moment de faire le discours et la solennité qui l'entoure. Vous savez, on est dans un régime très organisé. Nous sommes dans une république au Sénégal. Naturellement, le pouvoir judiciaire fera ce qu'il doit faire dans le cadre d'une enquête. Il n'appartient pas au président de la République de dérouler cette enquête. Le président a tenu un discours responsable pour dire qu'il a entendu, qu'il a compris et que les mesures hardies seront prises immédiatement pour, n'est-ce pas, apporter une réponse concrète à tout cela. Il faudrait que les gens cessent de faire de l'amalgame. Il n'y a aucun lien entre le troisième ou le quatrième mandat avec ce qui s'est passé au Sénégal. Aujourd'hui, le monde est sous la coupole de cette pandémie qui s'appelle la COVID-19, il est arrivé dans des pays plus développés que le Sénégal, que les gens soient dans la rue pendant des semaines et des semaines. Il ne faudrait pas que nous fassions de l'amalgame, c'est-à-dire que nous mélangeons les pommes de terre et l'Angleterre, ça n'a absolument rien à voir. Il était question cette fois-ci justement d'une personnalité politique, oui, il faut le dire, qui a mal à partir avec la justice, et qui a trouvé les superfuges pour ne pas répondre à la justice. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les gens en ont profité, un peu dans le cadre des émeutes de la faim, parce qu'il faut le rappeler, au Sénégal, il y a eu quelques supermarchés qui ont été attaqués, quelques stations...
Les supermarchés au champ, notamment les intérêts français visés avec les stations Total.
Vous savez, il y a une relation séculaire entre la France et les pays africains. Et ça, pour quelqu'un qui aspire à gouverner un pays africain, devrait pouvoir comprendre qu'on est dans un monde ouvert.
On est dans une mondialisation aujourd'hui. On n'est pas dans un cloisonnement où il faut dire, écoutez, il ne faut pas que les gens viennent travailler ici. Je crois que ça n'a pas de sens.
Merci.
Que nous avons un président de la République ouvert, qui comprend les enjeux du moment, qui comprend qu'aujourd'hui, le monde c'est juste un pays.
Merci, monsieur Mbaye. Je crois que vous avez largement pris la parole. On va écouter le docteur Adiba sur peut-être déjà cet appel concernant l'enquête sur les victimes et peut-être aussi un mot sur cette crise qui a dégénéré. On a vu des scènes jamais vues au Sénégal, des pillages, des agressions, des attaques contre les intérêts français. Mais dans le discours, le président n'a pas beaucoup insisté sur ces aspects. Est-ce que c'est aussi l'une de vos déceptions ?
Absolument. Maintenant, s'il a insisté sur ces aspects-là, je pense qu'il faudrait qu'il repense les relations qu'il entretient avec la France. Parce que l'ancien président Wade, quoi qu'on puisse lui reprocher, avait quand même diversifié notre coopération. On se retrouve ici avec la France qui, depuis l'arrivée du président Sall, gagne de plus en plus de contrats au Sénégal et les gens ont l'impression que ces contrats-là sont attribués dans des conditions qui sont nébuleuses.
Monsieur Mbaye vient de dire qu'on ne peut pas faire, on peut pas gouverner en Afrique sans, en quelque sorte, compter avec la France.
Qu'est-ce qu'il entend par compter avec la France ? La France est une...
Il a dit qu'il faut prendre en compte cet aspect, le lien avec la France.
La France est un de nos partenaires. Donc, c'est un de nos partenaires, c'est peut-être l'un de nos premiers partenaires, mais c'est aussi notre ancien colonisateur. Quand on gouverne un pays, on le gouverne de manière indépendante, on travaille avec tous ses partenaires et on met en concurrence ses partenaires. C'est ce que tout le monde demande, une réelle indépendance. Or, l'impression qu'on a depuis le retour de Macky Sall, depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, c'est que la France se taille la part du lion dans certains secteurs stratégiques et qu'elle n'est pas dans la concurrence avec les autres pays. Donc ça aussi, peut-être que la jeunesse de notre pays ne l'accepte pas. C'est aussi cette frustration-là qui est exprimée quand on attaque les Auchan, parce que les Auchan essaiment partout dans le pays, ce qui est une bonne chose. Personnellement, c'est ce que je pense que c'est une bonne chose, mais il n'empêche que ça a comme conséquence de tuer le petit commerce. Le Total aussi a été attaqué, mais si vous lisez le livre de Tierno Alassane Sall, vous voyez que les gens ont du ressentiment, ont l'impression que
Total a eu un contrat
sur le pétrole sénégalais, sur le gaz sénégalais, qui n'était pas en meilleure position par rapport aux autres concurrents. On a l'impression que les pillages qui ont eu lieu ne sont quand même pas arbitraires. Donc ça aussi, c'est un signal que le peuple, par-delà le cas d'Ousmane Sonko, envoie à la classe politique et au monde en disant qu'il y a quand même, on demande plus de respect et on demande plus de dignité et on demande surtout de pouvoir travailler et vivre chez nous.
Merci beaucoup. Monsieur Ba, aujourd'hui, on a donc deux appels. Le vôtre, lancé par votre leader, qui appelle les Sénégalais à poursuivre la mobilisation, et celui du président Macky Sall, qui demande à ses compatriotes d'observer la retenue. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que votre appel aille dans le sens du président Macky Sall, pour qu'on évite cette possible insurrection populaire ?
Oui, non, mais il y a. Vous ne pouvez pas appeler à l'apaisement. Il ne peut y avoir de paix sans justice pour les blessés, sans justice pour les morts. Ça, je vous dis, et sans libération des détenus politiques. Ça, ce sont des préalables non négligeables, qu'on ne peut pas discuter. Et le président de la République n'a pas répondu à ces questions. D'autre part, il faut qu'il annonce quand même la date de tenue des élections. Les élections locales sont reportées à une date infinie. Les élections législatives qui se profilent à l'horizon seront certainement au calendrier grec. On ne sait pas, le fichier électoral n'est pas prêt. Rien n'est prêt, le calendrier républicain est ajourné jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Il n'a pas annoncé cela. D'autre part, il faut qu'il annonce clairement qu'il ne sollicite pas un troisième mandat.
Mais il n'a pas dit, il n'a jamais dit, à ma connaissance, jusqu'à présent, qu'il va briguer un troisième mandat, M. Ba.
Il a varié dans ses réponses. Au début, c'était non, mais vous êtes malade ou quoi? C'est moi qui ai fait les réformes. C'est hors de question que je fasse un troisième mandat. Par la suite, au 31 décembre dernier, il dit, je ne me prononce pas, parce que si je me prononce sur le troisième mandat, mes ministres, ils ne vont plus travailler. Cette année, il dit, peut-être ou peut-être pas, je ne me prononce pas, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc, il y a une variation quand même, alors que c'est très simple. En France, vous dites à Emmanuel Macron, il vous dit, je sais que j'ai deux mandats et puis basta. Donc, il faut qu'il annonce des mesures fortes. Il faut qu'il apaise. Mais pour cela, il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'il ouvre immédiatement une enquête.
Merci.
Une commission d'enquête internationale. On n'attend pas une commission d'enquête indépendante avec le procureur qui lui obéit et les juges qui sont sous sa coupe. Ça, c'est hors de question. Donc, par rapport à Auchan, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est un appel à la France. Là, c'est un appel franchement à la France de redéfinir ses liens avec l'Afrique. On attendait beaucoup d'Emmanuel Macron après le discours qu'il a tenu à Ouaga. Malheureusement, on l'a vu avec l'écho, comment il est revenu aux vieilles pratiques.
La monnaie qui est censée remplacer le franc CFA.
Dans aucun pays sénégalais, aucun pays africain, aucun parlement africain n'en connaît les termes. C'est très choquant. Même M. le ministre conseiller qui en parle, il ne connaît absolument pas les termes du nouveau partenariat financier qu'on nous propose. Donc voilà une monnaie qui ne nous appartient pas, dont personne ne connaît les termes et qui ne correspond pas à nos économies. La France a un rôle important à jouer. Maintenant,
merci.
Si on vend le terre plus pour sauver Alstom de Belfort, plutôt que nous, nos finances publiques, le terre qu'on nous a vendu, un train qui coûte plus de 1000 milliards, qui n'a pas fonctionné de
le train express régional.
Voilà, donc voilà 1000 milliards qu'on a sortis. Au lieu d'en faire une université des hôpitaux, on a acheté un train pour sauver Belfort, Alstom de Belfort sous Hollande. C'est pas pour nous. Donc la France doit réorienter ses priorités et arrêter aussi de soutenir, de faire le clair-obscur dans le soutien des dictateurs africains.
Merci beaucoup. Je propose qu'on revienne dans quelques instants écouter la réponse de Zator Mbaye, le ministre conseiller du président de la République Macky Sall, sur ces déclarations. Et il y en a beaucoup, finalement, Monsieur Ba, que vous avez faites.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et à 18h46 à Paris, 17h46 à Dakar, nous poursuivons notre débat avec le thème du jour. S'achemine-t-on vers une sortie de crise ou va-t-on au contraire assister à une insurrection populaire dans les jours, semaines ou mois à venir au Sénégal? Nous en débattons avec trois invités. Docteur Hadi Ba, maître de conférence et enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Docteur Amadou Ba, juriste, membre du mouvement des cadres de PASTEF, le parti de l'opposant Ousmane Sonko, et Zator Mbaye, ministre conseiller du président Macky Sall. Monsieur Mbaye, il y a beaucoup de choses, beaucoup de griefs portés par l'opposition. Question du troisième mandat, la question de la relation entre le Sénégal et la France, les élections locales. Est-ce que vous pouvez brièvement et très succinctement répondre à cette demande de l'opposition? Allô, monsieur Mbaye?
Deux ans d'avis contraire. Donc, je sollicite votre clémence pour pouvoir apporter quelques éléments de clarification sur tous ces sujets. Je voudrais rappeler que le discours du président de la République n'a occulté aucun sujet. D'emblée, il a incliné une solidarité face aux morts, mais face aux blessés, mais il faudrait bien que nous puissions nous poser la question de savoir qui a été à l'origine de ces soulèvements, qui a parlé de mortal combat, qui a dit qu'il faudrait que le président soit entaché. C'est autant de questions aujourd'hui qui ont sensiblement poussé certains jeunes qui ne savaient même pas pourquoi ils sortaient d'ailleurs, mais à l'insurrection. Et il faut saluer la force les forces de défense et de sécurité au Sénégal, mais qui ont été dans une lucidité extraordinaire, je devrais dire, même exquise pour pouvoir ne jamais tirer sur les populations. On parle de relations entre le Sénégal et la France. J'ai indiqué tantôt que nous avons des relations séculaires, et il faut le rappeler. Ce n'est pas le président Macky Sall qui a amené Total au Sénégal, ce n'est pas lui qui a amené Eiffage au Sénégal, au contraire, c'est peut-être sous son avènement qu'Auchan s'est installé, et c'est même dangereux aujourd'hui de dire aux jeunes Sénégalais, il faut vous opposer aux intérêts de la France ou d'Auchan. Mais Auchan ne vend que des produits en tout cas la majorité des produits locaux, se vendent dans les Auchan, ce qui n'a jamais eu lieu de par le passé. À travers Auchan, on a un cadre qui permet aujourd'hui mais de commercialiser.
Mais beaucoup de commerçants locaux se sont plaints de ce qu'ils avaient perdu une bonne partie de leurs clients parce que Auchan appliquait des prix qu'ils ne pouvaient pas suivre.
Ça, c'était bien avant. Je pense que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui sont d'accord sur l'implantation de Auchan, surtout dans les quartiers, pour permettre à tous les Sénégalais mais de faire leur marché avec vraiment des prix très compétitifs. Et ça, mes compatriotes...
Donc vous dites en somme, il n'est pas question de révision de votre relation bilatérale, des relations bilatérales France-Sénégal.
Au Sénégal, il y a une relation bilatérale win-win entre le Sénégal et la France.
Et nous vous estimez qu'elle est win-win pour l'instant?
Nous ne sommes pas des sujets de la France, mais nous sommes des partenaires de la France. Et tenez-vous bien, la coopération au Sénégal, elle est diversifiée. Nous travaillons avec la Turquie. Nous travaillons avec les Chinois, nous travaillons avec l'Inde, nous travaillons avec les Américains et les Anglais.
D'accord.
Les gens.
Et sur le troisième mandat, monsieur, vous avez encore 2 minutes, s'il vous plaît. Et sur le troisième mandat et l'écho?
Vous savez, le troisième mandat, nous n'en sommes pas encore là. Le président a donné une réponse très, très claire sur la question. Il vient fraîchement d'être élu. On est aujourd'hui frappé par cette pandémie du nom de la COVID-19. Le président est en train de tout faire pour pouvoir apporter des mesures, n'est-ce pas, qui puissent atténuer cette crise économique. Et on en parle encore avant de parler de
ça. Ce que l'opposition reproche justement au président, c'est cette variation de position. Et il n'est pas tout à fait fermement, il n'a pas fermement dit qu'il n'est pas dans la logique d'un troisième mandat. Et l'opposition lui demande aujourd'hui d'être précis. Est clair sur ce point.
À 3 ans des élections, est-ce qu'il est obligé de dire je serai ou je ne serai pas? Rien ne lui oblige. Et ça, il faudrait que les gens le comprennent très bien. Absolument rien.
Excusez-moi, monsieur Mbaye, si je peux me permettre, avec votre permission, c'est la question se pose aujourd'hui tout simplement parce que certains Sénégalais ont l'impression que le dossier judiciaire de Karim Wad, celui aussi de l'ancien maire de Dakar, Ali Fassal, et maintenant celui de Sonko, est lié à cette question du troisième mandat que souhaiterait faire Macky Sall.
Écoutez-moi, madame, c'est absolument faux. Le dossier de M. Karim Wad était lié à l'enrichissement illicite. Le dossier de M. Khalifa Sall était lié à une question de détournement de deniers publics. Et aujourd'hui, le dossier de M. Ousmane Sonko est un dossier privé qui oppose, je le répète encore, une jeune fille sénégalaise et un jeune homme sénégalais qui sont du même droit vis-à-vis de la loi. Et aujourd'hui, pourquoi il parle d'élection et de fichier électoral? On a un fichier, c'est l'opposition qui en répondant à l'invitation du président de la République au lendemain des élections, au bout desquelles, d'ailleurs, il a été réélu, je le rappelle, à 58,2%. Il a appelé à un dialogue pour discuter de toutes ces questions. Et c'est l'opposition qui a demandé une évaluation, qui a demandé un audit, et ça a démarré. On ne peut pas, par contre, demander une chose et son contraire.
Merci, M. Mbaye. Merci, M. Mbaye. Il nous reste à peine 4 minutes pour cette... Pour conclure, docteur Adiba, aujourd'hui, est-ce qu'on est en voie de trouver une solution à cette crise politique? Ou alors vous vous dites, au regard des discours de pouvoir et de l'opposition que vous entendez, on est parti peut-être pour des manifestations plus fortes dans les jours à venir?
Je ne sais pas. Je sais que il n'y aura pas d'accord apparemment entre le pouvoir et l'opposition. Maintenant, je pense que ceux qui ont manifesté n'ont pas nécessairement manifesté pour Ousmane Sonko. Ils ont manifesté pour diverses raisons, des raisons économiques, mais également des raisons politiques, protéger leur démocratie et tout ça. Donc, ces gens-là, on ne sait pas s'ils vont continuer à manifester ou pas. Je pense que s'il continue à manifester, l'opposition va appeler à des manifestations pour obliger le président de la République à clarifier les choses.
Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui que l'opposition, son appel ne soit pas entendu puisque vous dites qu'il y a l'affaire Sonko, mais il y a d'abord les problèmes économiques et d'autres problèmes qui ne concernent pas Ousmane Sonko. Est-ce que l'appel de l'opposition va être entendu?
Il y a ce risque-là. Je pense qu'il faut qu'on remette les choses en perspective. Il y a des questions importantes qu'il faut qu'on pose. D'abord, la question du viol. Tout ça commence par une accusation de viol qui n'a pas été élucidée. On a créé les conditions pour qu'elle ne puisse pas être élucidée. Donc, comment on fait pour qu'on élucide cette question-là? Ça, je pense que sérieusement, il faut que
la justice se poursuive.
Je pense que personne n'a plus confiance en la justice. Maintenant, les organisations de la société civile doivent se débrouiller pour qu'on ait une enquête indépendante sur cette question-là. Mmh. On a la question des morts et des nervis. Donc, pour la première fois au Sénégal, on a vu des hommes en civil, armés, réprimer une manifestation aux côtés de la police sans que la police ne réagisse. C'est extrêmement grave et ça met en danger notre démocratie.
Merci beaucoup.
Donc ça, il faut également qu'on oblige le pouvoir à mener une enquête et à vraiment prendre toutes les dispositions pour que ça ne se reproduise jamais. Donc ça, c'est les deux questions importantes. Parce que si on a la terreur, on ne peut pas avoir de démocratie. Si on a quelqu'un dont on ne sait pas si c'est un violeur, il ne peut pas être... En tout cas, il n'est pas souhaitable qu'il soit candidat à la présidence de la République.
Merci
Donc,
beaucoup.
Il faut qu'on fasse ces enquêtes-là.
Merci, Dr. Ba. En une minute, Amadou Ba, vous concluez sur... à quoi vont ressembler les prochaines semaines?
Tout dépendra de l'attitude de Macky Sall. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a des arrestations qui continuent. Actuellement, au moment où je vous parle. Donc, il nous a habitués à des fourberies politiques. Franchement, il y a une rupture de confiance avec tout ce que fait le président Macky Sall, malheureusement. Et s'il veut réellement apaiser la situation, qu'il annonce des mesures extrêmement fortes pour la jeunesse, je pense avant même les affaires politiques, qu'il annonce un plan Marshall pour les jeunes, pour la formation. Deuxièmement, qu'il désigne une commission d'enquête pour éclairer nos morts et les blessés. Et puis, qu'il engage le dialogue politique avec l'opposition. Il ne peut pas continuer à sursoir aux élections indéfiniment. Il ne peut pas s'accrocher indéfiniment au pouvoir. Vous avez entendu le ministre Zatoua Mbaye dire qu'il a fini ses deux mandats, mais que ce n'est pas le moment de se prononcer, alors que la Constitution est claire. Quand une Constitution est claire, ce n'est pas au président de la République.
Oui, mais il y a aussi diverses interprétations. Il n'y a pas sur cette Constitution, sur ce point concernant le troisième mandat. Cela dépend du côté où on se trouve.
Il a fait lui-même le référendum en disant « je veux verrouiller la Constitution, c'est mon premier mandat, j'en ferai peut-être un second, mais après c'est terminé, je ne peux plus me représenter ». C'est ce qu'il nous a toujours vendu. Donc aujourd'hui.
Mais de toute façon, si votre candidat est condamné, il n'irait pas, il ne pourrait pas se présenter en 2024.
Mais pourvu qu'on le montre, parce que quand même ce dossier est cousu de fil blanc, tout le monde le sait. La femme du ministre de l'Intérieur qui conduit l'a supposée violée pour porter plainte, des personnalités de l'APR du gouvernement qui sont impliquées. Donc c'est une affaire que vous allez voir quelques jours, les révélations continuent. Le gendarme qui a mené l'enquête a démissionné, le juge qui devait inculper Sonko, qui a demandé la levée de son immunité parlementaire, s'est désisté. Pourquoi autant d'irrégularités dans une procédure de viol qui aurait dû être extrêmement simple, parce que la personne violée a porté plainte même pas 2 heures après.
Merci
Donc,
beaucoup.
Donc, c'est un conclure manifeste et le président de la République doit clarifier lui-même son rôle.
Merci beaucoup, M. Ba. Merci beaucoup, Amadou Ba, du PASTEF, parti de Ousmane Sonko. Merci à Zatoua Mbaye, ministre conseiller du président Macky Sall, et au docteur Adiba, maître de conférence et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop, d'avoir participé à ce débat sur le Sénégal. Bonsoir.